Infiltrée, une femme au stup. Mission au Cambodge. De temps en temps, au stup, il y a une sorte d'appel d'offres, une proposition de mission en pays étranger. Soit il s'agit d'une enquête qu'il faut poursuivre à l'étranger, c'est alors un processus très compliqué, nécessitant l'acceptation des autorités et de l'administration locale. Soit c'est une demande d'organisation et de réalisation d'un stage à l'étranger. Dans ce cas, tout le monde se précipite pour en être. Cette fois-ci, il s'agissait d'organiser et de donner une formation sur les techniques du coup d'achat pour des policiers cambodgiens. Le Cambodge. J'y avais déjà voyagé. Je rêvais d'y retourner. Je saute sur l'occasion et je m'inscris. J'apprends avec joie que je suis choisie. Et avec Pierre-Jean en plus, mon super poteau des stupes. Pierre-Jean était en vacances chez sa mère, à Toulouse. Je l'appelle immédiatement. « Youpi, Pierre-Jean, on part ensemble !» Nous nous mettons sérieusement au travail pour bien préparer la mission. Nous évaluons le nombre de jours dont nous pourrons disposer. Nous décidons de faire des choses un peu théoriques le matin, avec des tableaux pour bien leur expliquer comment procéder et agir. Nous mettons au point pour la suite de la journée des exercices dans la nature, comme dans la ville, pour mettre nos stagiaires en situation de filocher quelqu'un et leur apprendre comment être tantôt un agent pénétrant, tantôt un agent couvrant. Au Cambodge, les Khmer Rouges n'avaient pas rendu les armes. Le nouveau pouvoir était contesté. Quant à la CAM, il y en avait partout. Bref, c'était un des endroits chauds de la planète. Nous partons très excités de l'aventure, en classe éco, comme c'est la règle dans la police. Faut pas imaginer autre chose. On fait d'abord une escale à Bangkok, mais on ne peut pas sortir de l'aéroport. Je bourre Pierre-Jean de noix de coco et de plusieurs fruits typiques. J'allais tous les ans en Asie et je connaissais par cœur ces délices. Il goûte à tout et m'appelle sa régionale d'étape. Puis nous repartons à Phnom Penh. C'est l'attaché de la sécurité intérieure de l'époque, un Français, qui nous accueille à notre arrivée. Il tient absolument à nous présenter le soir même à l'ambassadeur, qui, dit-il, est très satisfait que cette mission existe. Il nous dépose à l'hôtel. Nous n'avions pas dormi depuis la veille, mais impossible de piquer un roupillon avec cette invitation protocolaire. Une douche, des habits propres, et nous voilà obligés de repartir chez l'ambassadeur. Les ambassadeurs, je n'en avais encore jamais rencontrés. Depuis, j'en ai connu des quantités, et des formidables. Mais alors l'ambassadeur de Phnom Penh de l'époque, apparemment, il n'aimait pas les flics. Il se montre, dès l'abord, presque désagréable. Puis nous demande si nous connaissons le théâtre d'ombre. Oui, je connaissais, car ce n'était pas mon premier voyage en Asie. C'est un spectacle de marionnettes en ombre chinoise, sur un grand drap tendu devant un feu. Presque toujours, c'est pour raconter la vie de Bouddha. Ce soir, je vous invite à voir le spectacle des ombres, décrète l'ambassadeur. Déphasé par plus de 6 heures de décalage horaire, mort de fatigue, nous sommes forcés de nous exécuter et nous le suivons au spectacle. « Je vous ai réservé des places au premier rang », nous dit-il sadiquement. Impossible de s'échapper discrètement. Le spectacle est mortel. Il dure 3 heures. Je n'en peux plus. Je pique du nez. Et comme c'est en extérieur, nous nous faisons dévorer par les moustiques. Sûr qu'on va attraper le palu. La vie de Bouddha n'en finissait plus. Ma tête tombait sur les épaules de Pierre-Jean, qui lui-même s'effondrait. Enfin, le spectacle se termine. L'ambassadeur revient vers nous et me dit sévèrement « Je vois que vous n'avez pas été passionné par le spectacle des ombres. » Ça démarrait mal avec lui. Heureusement, nous n'avons pas eu beaucoup à le revoir. Le troisième jour, les choses sérieuses commencent. Nous avons rendez-vous dans les bureaux du ministère de l'Intérieur avec nos 25 élèves policiers cambodgiens. Ils sont de tous les âges, mais plutôt jeunes en majorité. Ils nous attendent tous en tenue. Nous leur expliquons qu'à partir du lendemain, il faudra venir en civil, car on va faire des exercices dans la ville et que leur tenue bien reconnaissable compliquerait tout. Nous avons un interprète, bien sûr, puisque ni Pierre-Jean ni moi-même ne parlons khmer. C'est un jeune homme extrêmement sympathique qui a fait ses études à Poitiers. Il parle vraiment bien le français, avec un fort accent asiatique. Le premier jour est consacré à la prise de contact et aux amabilités qui vont avec. Nous exposons le programme de travail et les modalités du stage. Nous nous rendons compte que nous sommes face à une police plus directe, toujours en uniforme, plus proche de la sécurité publique que du judiciaire. On leur dit de venir avec leurs moyens de transport du moment pour essayer de faire des filatures avec plusieurs véhicules. Le lendemain, je débarque en t-shirt et pantalon kaki. L'attaché de la SI m'avait prévenu. Le premier jour, essayez de ne pas les perdre. Et si vous faites des filatures, arrangez-vous pour qu'ils vous retrouvent. Sinon, ils vont être vexés. Et ça va vous compliquer les choses. Donc le premier jour, pour le premier exercice de filature, on décide que c'est moi qui vais partir me perdre dans les méandres des marchés et que les stagiaires auront pour mission de ne pas me lâcher d'une semelle. Ils doivent noter tout ce que je fais et faire attention, bien sûr, à ce que je ne les repère pas. Sinon, ce ne serait plus une filature. La ville, je la connaissais bien, car j'y avais passé plusieurs semaines l'année précédente. J'avais apporté casquette, perruque, toute ma panoplie d'undercover. Je me déguise et pars au marché. Je les ménage pour le début. Je me cache un peu, mais pas trop. Je les repère tout de suite. Du moins, c'est ce que je crois. Il y en a un avec un t-shirt jaune et un autre avec une chemise bleue. Mais une fois au milieu du marché, je me rends compte que je me suis trompée. J'ai pris un mec pour un flic et un de mes élèves flics pour un Cambodgien faisant son marché. En tout cas, eux, ils ne m'ont pas perdu, même si, progressivement, j'avais tout fait pour. Retour en classe. Dans les salles que le ministère a mises à notre disposition pour faire le débriefing de la journée. Avec Pierre-Jean, on leur demande leurs impressions, toujours en passant par l'interprète qui nous traduit ce qu'ils ont pensé de cette première journée. Ils sont très contents. Je les félicite. Je leur demande de me décrire ce que j'ai fait dans la journée. La dame au pantalon vert bizarre commence à traduire l'interprète, qui ignorait le mot kaki. La dame en pantalon vert bizarre est allée au marché. Elle a acheté des bananes, elle a pris telle et telle ruelle, etc., etc. Ils ne m'avaient pas perdu de vue et ils en étaient extrêmement fiers. Le lendemain, je les préviens que ce sera plus compliqué. Au bout de 10 minutes, je me cache brusquement derrière une marchande et son étalage. Je sors ma casquette, ma perruque, je me tiens un peu courbée et je passe à côté d'eux sans qu'ils me reconnaissent. Je les regarde tourner comme des avions qui n'ont plus de radar. Il faut savoir que nous, non-asiatiques, nous sommes aussi peu reconnaissables pour eux qu'ils ne le sont pour nous. On a l'impression que c'est plus facile, car nos cheveux peuvent être de couleurs différentes. Mais rien qu'avec une perruque et une casquette, je les ai complètement déroutés. Ils arrivent quand même à me retrouver. Alors je leur fais des coups de vis. Je saute sur des mototaxis et disparais à toute allure. Je m'amuse beaucoup. Le soir, on les briefe. Si vous êtes tous à pied, vous faites quoi? On leur apprend alors les techniques pour qu'il y ait toujours quelqu'un en moto et ou en voiture pour pouvoir suivre. Il faut s'adapter à l'habitat et à la ville dans laquelle on travaille. Comme on circule beaucoup en scooter, il leur faudrait donc une majorité de personnel en scooter. Il s'agit d'utiliser le même moyen de locomotion que celui que l'on suit. S'il est à pied, il faut être à pied. Mais si, à un moment donné, il prend une moto ou une voiture, alors qu'on n'a pas de collègue en moto ou en voiture, on l'a dans le baba. Nous les avons exercés inlassablement, jour après jour. Quand nous avons senti qu'ils étaient prêts et qu'ils y prenaient goût, nous avons monté un faux achat de drogue pour voir s'ils allaient être en capacité de comprendre qui fait quoi, qui revend, qui donne les ordres, etc. J'emprunte pour cet exercice l'épouse, française, d'un gardien de la paix de l'ambassade. Elle était policière en France. Nous mettons au point notre petit scénario. Elle prendra sa voiture, ira dans un restaurant. Moi, je la contacterai. Nous échangerons discrètement des sacoches, des enveloppes, etc. Le but est de voir au débriefing, après l'exercice, ce que mes élèves auront vu, comment ils auront interprété les choses, s'ils sont en capacité de faire des hypothèses et de décrire nos échanges avec exactitude. Jusqu'ici, ils s'étaient fort bien débrouillés. Enfin, à l'issue de l'exercice, pour leur faire plaisir, une fois qu'ils auront identifié les personnes et leur trafic, ils devront les interpeller. Heureusement que le haut commandement avait prévenu les autres policiers de la ville qu'il y avait des exercices en cours dans le quartier. Étant donné la situation au Cambodge, avec les circulations d'armes et le nombre effarant de kidnappings, cela aurait pu tourner au vinaigre. Lorsque nos stagiaires nous ont interpellés, il y avait vraiment de quoi avoir peur. Ils avaient tous des mitraillettes, des machins, des trucs. On s'est retrouvé la gueule sur le capot, menottés. Ils l'ont vécu comme une véritable affaire, à tel point que si les policiers non stagiaires n'avaient pas été au courant de la simulation, ces derniers auraient ouvert le feu sur tout le monde et la ville aurait été à feu et à sang. Le débriefing a été un grand moment. Certains nous ont montré les recoins de l'hôtel où ils s'étaient cachés. L'un avait eu l'idée de prendre le plateau d'un serveur. Ils avaient été très créatifs. Mais nous les avions surpris, nous aussi. On s'était fait prêter une voiture dans laquelle ils n'avaient pas l'habitude de nous voir. Tous, professeurs comme élèves, nous avons vécu cet exercice pendant une semaine trépidante et palpitante. Nos élèves se sont investis à fond. C'était épatant. Et j'ai beaucoup aimé transmettre, moi qui ne me croyais pas pédagogue pour un sou. Il faut dire que Pierre-Jean et moi formions un tandem qui fonctionnait parfaitement. Tout était facile avec lui. On se répartissait les tâches sans problème. Moi je fais ça et toi tu fais ça. Tous les soirs, nous faisions le point pour consigner la journée et améliorer nos méthodes d'apprentissage. Il reste que la barrière de la langue, malgré l'excellence de l'interprète, compliquait tout. Si nous avions pu nous adresser directement à nos élèves, nous leur aurions peut-être apporté plus. Nous avons gardé un souvenir magnifique de ce stage à Phnom Penh. D'abord, il y avait la satisfaction qu'exprimaient nos stagiaires. Ensuite, c'était flatteur de voir que l'aura et la réputation de la police française et de la brigade des stupes étaient allées jusqu'au Cambodge. Enfin, nous étions tout de même dans un lieu mythique. Tous les matins, nous allions prendre notre petit-déj à un endroit qui me fascinait, le FCC Phnom Penh, le bar où se retrouvaient les reporters pendant la guerre du Vietnam. Fauteuil club, billard, lampes pâles des ventilateurs en bois, l'ambiance coloniale ne nous transportait pas seulement dans les années 70, mais encore bien avant. Il y avait quelque chose de Saïgon, d'avant Dien Bien Phu. Je pensais à mon père, qui avait fait l'Indochine. On traversait le temps. Le dernier jour, nous avons croulé sous les cadeaux et le secrétaire d'État nous a invités à un repas merveilleux sur le Mekong. Mais le même soir, nous sommes redescendus brutalement sur terre. Au Martini, un bar un peu chaud, où nous avions décidé de boire un dernier verre, j'ai vu dans la salle des touristes occidentaux, avec les mains dans les culottes de petites filles en tenue d'école. J'ai dit à Pierre-Jean, « Viens, on s'en va. » Dans la rue de ce quartier, des gamins de 6 ou 7 ans nous poursuivaient pour nous proposer des trucs sexuels. J'étais bouleversée, horrifiée. Je voulais en parler le lendemain aux policiers, au secrétaire d'État. J'ai compris que cela n'était pas possible. Les policiers qui m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose sont restés bien vagues. Ils étaient déjà au courant, bien sûr. Cela a terni nos derniers jours. De retour à Paris, nous retrouvons notre 5e étage du 36 quai des Orfèvres.